Alexandre Plé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Human Life. On va parler avec vous donc de e-santé, hein, avec donc ce que vous avez développé. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que vraiment il y a des choses concrètes justement dans ce domaine de la e-santé qui sont maintenant installées dans ce que vous faites?
C'est en train de le devenir. Très clairement, la e-santé, on commence à en parler depuis quelques années maintenant. Nous, dans notre domaine, on est effectivement à la fois sur la e-santé, à la fois sur le bien-être. Alors, on ne dit pas encore e-bien-être. Mais ouais, on commence à faire des choses assez concrètes aujourd'hui et ça commence à parler au marché.
Alors, il y avait eu les... On sait que les grands acteurs s'y intéressent, que quand on a un mobile, on a effectivement, même on ne le sait pas toujours, on a une appli santé qui est là. Comment se développe ce marché?
Alors aujourd'hui, bah, typiquement, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez, Apple, pour ne pas les citer, a intégré automatiquement dans les smartphones depuis quasiment un an et demi maintenant l'appli santé qui mesure quelque part un peu à votre insu, en tout cas aujourd'hui votre nombre de pas, et qui a vocation à terme à être ce que l'on fait un peu nous. Je n'ai pas la prétention d'être concurrent d'Apple, loin de là, mais être l'équivalent d'un carnet de santé sur Internet, sur le mobile, et d'être un carnet de santé digital, oui, clairement.
Alors vous avez choisi justement, vous dites le bien-être, qu'est-ce qu'on trouve derrière cette dénomination?
Alors nous, moi j'ai l'origine de Human Life, c'est vraiment un carnet de santé digital et je l'ai agrémenté très rapidement de tout ce qui touche à l'hygiène de vie et au bien-être. Ça veut dire qu'on a des modules autour du sommeil, de la nutrition, de l'activité physique, on propose un suivi de grossesse, on propose le carnet de santé des enfants, les addictions, le tabac et l'alcool principalement, et on termine par quelque chose d'un peu exotique qui est le carnet vétérinaire de l'animal de compagnie. C'est ça que j'appelle quelque part un peu le bien-être et l'hygiène de vie. On est vraiment un outil, un tableau de bord, santé, bien-être pour toute la famille.
Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont connectées par ce biais-là pour chez vous?
Alors aujourd'hui, on a une activité en B2B importante, où là, pour le coup, on a des chiffres en dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Et effectivement, sur notre activité grand public, humanlife.com, on dénombre aujourd'hui un peu moins de 30 000 utilisateurs de notre service.
Justement, entre cette partie B2B et la partie grand public, comment vous allez vous développer?
Très clairement, notre choix stratégique aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur le B2B, de garder une présence grand public parce que on fait partie des premiers acteurs à avoir proposé ce service. On va sortir prochainement une application mobile. J'ai un peu, je ne sais pas si on peut dire j'ai raté le virage, mais néanmoins, je m'étais concentré à l'origine plus sur une plateforme web. Et c'est ce qui nous a amené finalement à être là où on est aujourd'hui, hein, et continuer d'exister 4 ans après notre lancement. C'est qu'on a développé une vraie activité auprès des entreprises, auprès d'acteurs assurantiels, d'acteurs industriels, d'acteurs de la santé.
Alors eux, justement, ils utilisent votre plateforme en marque blanche,
ouais.
C'est ça?
Ça se fait le plus souvent aujourd'hui en marque blanche. On fait de plus en plus de co-branding. Certains acteurs privilégient la mise en avant de la marque Human Life comme potentiellement un acteur de confiance. Un point fort de Human Life, c'est qu'on est chez un hébergeur agréé de données de santé et qu'on a une vraie éthique à l'égard des données, parce que le sujet de tout ça, là, on est dans la captation de l'information. Le point fort, entre guillemets, d'Human Life, au-delà de l'agrégation de ces données-là, c'est de délivrer le bon conseil au bon moment et d'être une forme de coach médical bien-être. Et très clairement, le sujet de demain, c'est la data. C'est qu'allons-nous faire de ces data? Et moi, j'ai pris le parti, pour être ancien professionnel de santé, j'ai pris le parti depuis l'origine d'être chez un hébergeur agréé de données de santé et d'attacher une éthique très particulière au traitement de ces données, à la fois données de santé, à la fois données comportementales et données personnelles.
Oui, parce que c'est effectivement la question qu'on ne se pose pas encore complètement, mais qui est là, qui va être majeure, c'est-à-dire que feront les assureurs, que feront les entreprises ou ceux qui ont le téléphone mobile, effectivement, derrière de ces données de santé.
Aujourd'hui, malheureusement, sur le sujet du traitement de données, pas particulièrement données de santé, mais le traitement de données, on est habitué avec tous les grands que vous venez, non pas de citer, mais d'évoquer, d'un point de vue marketing, savoir que nos données sont traitées, utilisées, revendues. Moi, ça ne me dérange pas de recevoir des photos de basket bleu quand j'ai écrit un email avec basket bleu. Par contre, quand je vais raconter mon temps de sommeil ou mon asthme ou ce genre de choses, Je ne suis pas convaincu, puisqu'on rentre quand même dans une sphère très personnelle, je ne suis pas convaincu d'accepter et d'avoir le même niveau d'appréhension sur le traitement de ces datas-là. Et c'est clair que nous, chez Human Life, on a mis un point d'honneur à intégrer une dimension éthique et à garantir une totale indépendance à l'égard du traitement de ces données.
Voilà, ça va être effectivement l'enjeu essentiel et on en parlera sans doute de plus en plus. Et puis il y a tous les objets connectés aussi autour. Comment vous regardez cet univers-là? Puisque effectivement, quand on parle de bien-être, on est de plus en plus sollicité aussi aujourd'hui pour avoir une appli sommeil, un petit tel ou tel petit objet connecté.
Alors, il est évident que le marché des objets connectés, qui a démarré en France il y a 3 ans maintenant, et on a eu, nous, Human Life, la chance d'être identifié comme un acteur potentiel de l'automesure, puisqu'on avait cette dimension d'agrégation de ces différents acteurs d'objets connectés, plutôt bien-être. Le tracker d'activité, ça reste quand même dans l'univers du bien-être. La balance Wi-Fi, bon, là, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la taille, ça dépend de l'IMC. Mais très clairement aujourd'hui, le marché du quantified self, pour notre sujet, nous a considérablement aidés. On en parle depuis maintenant plus de 3 ans comme étant un marché à fort potentiel. La réalité, c'est que c'est un marché qui démarre quand même assez doucement. Je pense que c'est absolument inévitable que demain, tous les tensiomètres deviennent connectés, toutes les balances Wi-Fi, enfin toutes les balances, pardon, deviennent connectées là aussi, et qu'on aura de plus en plus d'objets connectés. De là à dire aujourd'hui, alors qu'on est mi-2016, qu'un Français sur deux utilise un objet connecté, clairement pas. Néanmoins, c'est indiscutablement un marché d'avenir qui va aider à la fois dans le domaine du bien-être, là où on est positionné, mais aussi, je pense, beaucoup plus au domaine de la santé. Et je pense que les objets connectés en santé vont clairement faire évoluer considérablement ce marché. Et pour revenir sur votre première question, je pense que la e-santé passera en grande partie par les objets connectés en santé.
Donc là aujourd'hui on en parle plus médiatiquement que effectivement quand on regarde la réalité chez les
Je pense que dans les
Français.
faits, on n'en est pas encore à se faire prescrire des objets connectés. Il est indiscutable que l'objet connecté en santé va permettre et va aider le patient dans le cadre d'une mesure, parce que ça va lui simplifier la vie. Il y a encore quelques difficultés autour de l'énergie, autour de tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on a pris l'habitude dans notre quotidien de charger, en fonction de notre utilisation, plusieurs fois par jour, notre smartphone. Bon, bah, on n'en est pas encore là aujourd'hui sur les objets connectés que pour la plupart, tout le monde considère encore comme gadget, mais j'ai aucun doute qu'on trouve un tas d'applications et d'utilisations à ce type d'objet.
Comment se présentent vos perspectives? Est-ce que vous avez des levées de fonds? Est-ce que vous avez des projets d'investissement? Comment ça se
On
passe?
a aujourd'hui une levée de fonds en cours. On a évidemment des projets d'investissement et en l'occurrence de développement. On est sur un marché qui devient concurrentiel, qui ne l'était pas du tout il y a 3 ans. On était un peu seul. Aujourd'hui, quelque part, c'est bien, je me sens moins seul sur ce marché. Ça veut dire que c'est un marché aussi prometteur. Oui, on a des plans de développement importants. On a une volonté d'aller à l'international, en particulier à San Francisco, qui est un peu voilà, le laboratoire, je dirais, en tout cas dans notre domaine, autour du digital. Donc oui, très clairement, on a un beau plan de développement dans les 5 prochaines années.
On suivra ça. Merci Alexandre Monplet.
Merci à vous.